Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fréquence Association. Cette semaine, plusieurs sujets. On va tout d'abord s'intéresser à la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. La Ligue, vous la connaissez jusqu'à présent une fois par mois, les services civiques de la Ligue de l'enseignement proposaient une émission le jeudi matin sur Radio Plus, La Ligue et vous. Et alors que la 9e édition de Fête la Fraternité devait se dérouler à la mi-mars, la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais a dû, comme bon nombre d'associations, annuler cet événement et s'adapter au contexte imposé par l'épidémie de coronavirus. Sébastien Briot, le délégué départemental à la vie fédérative, a répondu à mes questions le 29 avril dernier concernant la poursuite des différentes activités de la Ligue. Sébastien Briot, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe.
Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué départemental à la vie fédérative de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Alors pouvez-vous déjà rappeler à celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore la Ligue de l'enseignement ce dont il s'agit ?
Alors, la Ligue de l'enseignement est un mouvement, le premier mouvement d'éducation populaire au niveau donc France et au niveau donc du département. C'est un réseau de 900 associations sur l'ensemble du département, où avec un certain nombre de valeurs fortes comme la fraternité, la solidarité, l'idée c'est qu'on puisse œuvrer au quotidien pour, si je peux dire, à mon meilleur et puis d'autant plus aujourd'hui sur une solidarité, une entraide entre les êtres humains et développer une conscience citoyenne. Voilà, donc effectivement un réseau fort associatif avec différents axes et actions luttant contre l'illettrisme également par des différentes actions comme lire et faire lire. Très rapidement ce qu'est la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, c'est une association et un mouvement qui a plus de 150 ans au niveau national et on a fêté les 90 ans en 2016, donc on approche tout doucement notre siècle d'existence. Donc c'est une vieille association, si je peux dire, mais qui est toujours présente et très présente sur des sujets également forts qui peuvent être aujourd'hui surtout ce qui est au niveau de la pandémie, sur la pauvreté, sur parfois des différences au niveau social, donc avec des axes et des actions forts.
Alors, beaucoup de vos activités ont dû s'interrompre hein, depuis le début du confinement, et notamment l'événement Fête la Fraternité qui devait se dérouler au mois de mars. Comment vous êtes-vous adapté à la situation ?
Oui, alors effectivement, l'arrêt a été assez brutal, comme tout le monde. Nous étions sur notre 9e semaine au niveau de la Fête de la Fraternité, donc autour du 21 mars, qui est contre les discriminations raciales au niveau donc une date internationale. La façon dont nous avons interrompu, bon, déjà par le fait d'annuler toute manifestation, et on s'est surtout très très rapidement, on s'est tourné, on a mis en place des activités, surtout une écoute et un accompagnement au niveau de notre réseau. Alors, qui s'est traduit dès le début par une lettre information, donc on a tous les lundis une lettre information qui sort, donc là on en était à notre 6e, où nous avons œuvré sur un spécial confinement autour de accompagner, valoriser et relayer. Donc c'est-à-dire que nous avons su apporter un accompagnement, que ça soit éducatif, pédagogique, autour des différentes associations partenaires. On a pu valoriser des différentes actions qu'il y a pu avoir et qui ont lieu sur le terrain, oui. Et également relayer l'ensemble des informations.
Quelles sont les demandes qui remontent le plus de vos partenaires, des associations partenaires qui sont affiliées à la Ligue de l'enseignement ?
Alors, l'affiliation de la Ligue de l'enseignement, donc nous appartenons à un réseau, donc le point information la vie associative, qui représente un certain nombre de points et d'informations. Donc nous avons été sollicités auprès des associations essentiellement, dans un premier temps, sur un volet économique, des interrogations sur les subventions. Seront-elles maintenues ou pas maintenues, etc. Donc effectivement, aujourd'hui, ça fait sur le mois et demi, ce sont toujours des questions, mais très très rapidement sur le fonds de solidarité, sur des notions économiques, comment entretenir, et là c'était la force également, le lien avec les bénévoles, avec son activité vis-à-vis des caractéristiques et de ce Covid. Donc c'était effectivement ces questions-là, économiques et RH, si je puis dire, par rapport aux associations employeuses, et également au niveau du lien social que les associations ont pu avoir. C'était vraiment ces trois domaines-là.
Quelle est la situation aussi pour le personnel, les salariés qui travaillent au niveau de la Ligue, les services civiques que vous employez? On le sait, plusieurs d'entre eux assuraient jusqu'à présent un rendez-vous mensuel sur Radio Plus.
Alors, on a mis essentiellement au niveau donc des services civiques, nous avons pris l'orientation. Quoi. L'orientation, maintenant, ça a été au niveau du national et de l'agence, puisque la Ligue de l'enseignement est au niveau est une structure en intermédiation, donc entre la structure, la Ligue et puis l'agence. L'orientation, effectivement, ça a été, d'un point de vue sécurité sanitaire, a été d'arrêter toute activité en contact, donc en présentiel, pour être amené à avoir, lorsque c'était possible, lorsqu'il y avait cette possibilité, effectivement, de mettre en place une modification au niveau de l'activité service civique, c'est-à-dire d'avoir cette notion de distanciel et d'avoir cet accompagnement auprès de l'objet qui répondant toujours à la mission des services civiques, donc de l'accompagnement auprès des associations et des structures. Un exemple, des services civiques qui sont au niveau EHPAD, forcément, il n'y avait plus la possibilité d'y aller, mais ils ont pu continuer à entretenir des liens, soit par téléphone, soit en écrivant, soit par mail ou d'autres manifestations, entretenir le lien avec les différentes structures et avec les différentes personnes étant au niveau de l'EHPAD. Pour d'autres associations, ça pouvait également des gestes de solidarité et des veilles, si je puis dire, et des contacts au niveau des différentes personnes pour éviter un isolement.
Avez-vous mis en place, au niveau de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, de nouvelles activités ou la poursuite d'activités par le biais d'outils numériques?
Alors, oui, nous avons, par rapport à notre lettre d'information, un souhait, nous avons dans le volet accompagné, donc sur le pôle éducation, on a mis en place donc des ateliers, donc on en est au sixième, qui peut être par exemple comment éduquer à la fraternité pendant et après le confinement concernant les enfants, comment parler du Covid avec les enfants et les jeunes. Donc on a travaillé sur tout un volet pédagogique, des opportunités éducatives pédagogiques qui pouvaient nous offrir durant cette période et qui étaient présentes durant cette période auprès donc des associations affiliées, mais également toute association. Nous avons également, par rapport à notre réseau sportif, donc au niveau de l'USDEP et du FOLEP, sous le côté faire bouger petit et grand à la maison, et la mise en place de challenges au niveau du FOLEP, donc pour continuer à bouger, je dirais, s'entretenir et à garder une activité physique. Donc à chaque jour, l'UFOLEP a mis en place un programme, des petites activités, des petites rubriques pour accompagner donc les gens, si je peux dire, sur par exemple un réveil musculaire, une séance de sport santé, un sport enfant, relaxation, séance adulte, quoi. Des challenges également et également des conseils de premier secours. Donc je dirais qu'on a eu une réelle adaptation et j'ai même été très agréablement surpris de quelle façon le réseau également nous avons su au niveau d'une certaine agilité faire face, si je peux dire, à la situation. Donc nous avons par exemple un très bel exemple, parce que souvent on vient à penser que les personnes les invisibles, les plus démunies, etc., peuvent avoir une fracture au niveau du numérique. Et donc sur Saint-Paul, sur Terre-Noise, la coopérative des savoirs ont su et mettent encore en place ce qu'ils appellent des réunions institutionnelles. Donc tous les lundis, ils sont à peu près entre 25 et 30 personnes en visio, où ils font leur accompagnement. Ils mettent en place toujours ce collectif, avec également le lendemain, donc le mardi, une activité d'open badge. Et lorsqu'on regarde le public, donc des bénéficiaires du RSA, des personnes qui sont parfois invisibles, ont su créer une dynamique forte.
Donc beaucoup de solidarité à travers l'ensemble du réseau de la Ligue de l'enseignement.
Oui, exactement. Un exemple également, on a souhaité répondre à un appel sur Volonté Europe concernant les Roms sur le bassin minier, où il y a eu un appel de solidarité, où on a relayé naturellement cette information et nous avons contribué, certains d'entre nous ont pu contribuer et répondre à cet appel. Énormément de solidarité.
On le sait, un retour dans les établissements scolaires est prévu à partir du 11 mai et du 18 mai dans les collèges. Est-ce que des interventions de la Ligue sont toujours maintenues en établissement scolaire vu le contexte?
Alors, à ce jour, entre les annonces d'hier, entre cette reprise, entre les éléments, les parents, entre les enfants, s'ils ont la possibilité de, par rapport à cet acte de volontaire, de déposer et de mettre leurs enfants à l'école, on n'a pas encore une lecture, une visibilité forte et une orientation concernant notre investissement au niveau de l'éducation nationale. Effectivement, vous avez raison de souligner, Jean-Philippe, l'éducation nationale est nous sommes le premier partenaire de l'éducation nationale au niveau donc national et du département. On attend et nous sommes dans l'attente également des orientations, des possibilités, mais naturellement on apportera notre soutien si cela nous est possible jusque la fin de la période scolaire. Donc pour l'instant nous sommes également et nous sommes en attente des orientations définitives et des possibilités que cela nous laisse.
Alors Sébastien Brioul, des questions se posent également pour les vacances d'été qui arrivent en principe dans quelques semaines. Vous possédez notamment au niveau de la Ligue de l'Enseignement un centre de vacances, les Argousiers, à Merlimont. Vous organisez également des séjours. Là aussi, qu'en est-il ?
Alors sur les ACM, sur les accueils des mineurs, nous savons en tout cas au niveau des classes, parce qu'on avait la possibilité, on a la possibilité d'accueillir les classes découvertes. Là, c'est en stand-by effectivement jusque fin juin, naturellement, si je puis dire, avec une possibilité de reprise en septembre. Donc on a quelques reports, on a quelques notions. Et concernant effectivement ces centres de loisirs et ces accueils de groupes, etc., nous sommes dans l'attente des orientations, des possibilités, puisque c'est un centre qui peut accueillir en lit 162 lits plus un espace camping, donc on peut avoir jusqu'à 300 ou 400 personnes présentes sur site. Donc là on attend des différentes orientations, des possibilités à l'avenir, donc comment le virus va
évoluer.
Oui. Va avancer et effectivement nous laissera la possibilité. Toujours est-il, c'est que nos équipes sont, si je puis dire, dans les starting blocks, donc on voit, et tout en préservant la sécurité au niveau, forcément au niveau sanitaire, mais si cela nous est possible, naturellement, Merlimont ouvrira et restera ouvert et laissera la possibilité d'accueillir les différents publics, puisque c'est un axe qui est fort, quoi, que ce soit les colonies de vacances, comme on peut appeler, sur cet accueil, se laisser cette possibilité, parfois au niveau des personnes les plus démunies par rapport à son de loisirs, de pouvoir profiter d'un espace comme Merlimont, d'un accès à la mer, d'un accès et surtout vis-à-vis de cette période de confinement, de laisser la possibilité à tout le monde, si je puis dire, de s'aérer l'esprit et de voir un peu la mer. Voilà.
Alors le confinement est bien qu'évidemment nécessaire, un coup dur sur le plan financier pour beaucoup d'associations. Sur ce plan-là, quelle est la situation de la Ligue de l'Enseignement du Pas-de-Calais ?
Vis-à-vis, concernant la Ligue, nous avons eu quand même une certaine bouffée d'oxygène, si je puis dire, sur le maintien des subventions, puisqu'effectivement, ayant cet arrêt d'activité sur un certain nombre d'actions, même un grand nombre d'actions, pour pas dire toutes les actions, nous avons eu effectivement ce maintien de subventions de l'État, nous a permis quand même de voir un avenir, si je peux dire, rassurant sur la Ligue et concernant la Ligue du Pas-de-Calais. Après, effectivement, on a été fortement impacté sur certaines de nos prestations, puisqu'il est évident que, par exemple, le BAFA BFD, qui est une activité forte au mois d'avril, n'a pas pu se tenir. Mmh. Donc, nous attendons toujours quelques annonces pour voir si, effectivement, une possibilité de report, possibilité d'allongement concernant l'activité BAFA et BFD sur des périodes de stage, pour pouvoir avoir une activité plus forte au cas où, au mois de juillet ou au mois d'août, pour avoir ces reports de stage concernant un peu plus l'impact au niveau des prestations. Donc, le maintien des subventions, et effectivement, ce qu'on aspire, c'est qu'il y ait un report des prestations qui nous permettrait d'avoir une activité économique, on veut dire revenir à la normale.
Alors pour terminer, Sébastien Brioul, quel message souhaitez-vous faire passer aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent ?
Je dirais que continuons cet élan, et la plupart du temps, lorsque on est en difficulté, qu'on arrive à voir les plus beaux élans et puis les plus beaux partages de solidarité. J'ai été, et je peux dire que je suis fier, en tout cas, de la mobilisation et des éléments qu'on a pu faire au niveau de notre réseau. Donc continuons à faire en sorte que cette période ne soit plus qu'un mauvais souvenir, si je peux dire, concernant certaines situations, mais en tout cas reste dans les mémoires concernant cet élan de générosité et de solidarité.
Eh bien, Sébastien Brioul, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes délégué départemental à la vie fédérative de la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Radio Plus.
Merci Jean-Philippe.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
In a Ghost Town, c'était le dernier single des Rolling Stones sur Radio Plus. À présent, on va s'intéresser à l'association Second Départ dans Fréquence Association, une association située à Neuilly-les-Mines et qui poursuit ses missions de prévention des addictions malgré le confinement. Un reportage de nos confrères de Banquise FM.
Le confinement a un impact sur notre mental, plus ou moins fort selon les personnes. Et pour certains, des addictions apparaissent ou s'aggravent à cause de la solitude notamment. À Béthune, Laurent Leguet, ancien malade de l'alcool, et Marie-Joseph Bourlard ont créé en 2009 leur propre association, Second Départ, afin d'apporter leur aide aux malades de l'alcool et leurs familles pour combattre cette dépendance. Aujourd'hui, la médiatrice sociale de l'association, Célia, et Laurent Leguet, le président, ainsi que les bénévoles, accompagnent les personnes addictes à l'alcool, mais aussi la drogue, aux médicaments et aux jeux. Habituellement, ils les accompagnent dans leur structure, à Haïcourt, et proposent notamment des groupes de parole dans plusieurs centres d'addictologie de la région. Mais pendant le confinement, c'est impossible. Ils ont pu maintenir leur assistance téléphonique, comme d'habitude, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Un soutien primordial pendant cette période difficile. Nous avons échangé par téléphone le 4 mai dernier avec Laurent Leguet, président de l'association Second Départ, qui nous en dit plus sur ce que l'association propose pendant le confinement.
Quand il y a eu le confinement, puisque tous les centres, tout ça, tout le monde y a fermé, notre structure a été obligée de fermer aussi. Et donc, où on était embêté, c'était de laisser nos bénéficiaires sur le carreau, en fait. Et avec Selena, la médiatrice sociale, qui est dans l'association depuis fin 2018, on s'est dit, nous, on peut pas laisser ça. On peut pas laisser les gens comme ça, et surtout en sachant ce que c'est d'un confinement, quoi, on va dire. On a téléphoné à des personnes, des responsables de l'agglo, et on a arrivé à avoir les autorisations pour ouvrir que une assistance téléphonique. Alors, l'assistance téléphonique, elle est ouverte du lundi à partir de 9h jusqu'à 16h. Et jusqu'au samedi, pareil, de 9h jusqu'à 16h. Et donc, la première semaine, on a eu l'impression que les personnes, en fait, c'était un petit peu les vacances pour tout le monde, quoi. Sauf que la deuxième semaine, on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de monde qui était en difficulté. Et donc, on note de plus en plus de monde au niveau du téléphone. Quoi.
Et donc, combien de personnes vous appellent en moyenne par jour et combien de plus par rapport à avant ?
À nous, à notre niveau, tous les jours, pratiquement tous les jours, on va dire qu'on a entre 40 et 50 appels, soit à donner ou à recevoir. On reçoit aussi les appels de publics complètement différents qu'on n'avait pas d'habitude, quoi, je veux dire. Et ça, c'est vraiment pendant les heures d'ouverture de la structure. Plus après, nous, ce qu'on a à la maison, sur nos portables.
Et qu'est-ce qu'il revient le plus souvent lors de ces appels ? Quelles questions il vous pose ? Qu'est-ce qu'il vous demande ?
Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens qui ont envie de discuter, de parler. Ça peut durer une conversation, elle peut durer une heure et demie, deux heures, quoi, je veux dire. C'est même simplement avec les bénéficiaires, on va dire, c'est un minimum d'une demi-heure par personne, quoi. C'est toujours ça, quoi. C'est l'enfermement. L'enfermement, le manque de voir des autres personnes de leur famille, on va dire que malheureusement, en plus d'une addiction, ils ont un sort en plus, et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en dépression, quoi. Et on ressent bien que par rapport à la première semaine du mois de mars, on ressent bien que c'est de pire en pire, quoi. Là, ils attendent qu'une seule chose, et c'est ce qui nous fait un peu peur aussi, c'est de sortir, quoi. sortir. Quoi. Et ils vont pas chercher à savoir si il y a des confinements en zone rouge ou quoi que ce soit. Et c'est ce qui fait peur.
Laurent et Célia, la médiatrice sociale, sont donc disponibles 24 heures sur 24 par téléphone, ce qu'ils font aussi tout le long de l'année d'ailleurs. La plupart du temps, ce sont les personnes dont le besoin qui les appellent, mais ce confinement leur a fait comprendre qu'il est aussi important de prendre régulièrement de leurs nouvelles et de les appeler eux-mêmes, comme nous l'explique Laurent Leguet, président de l'association Second Départ. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu des personnes qui ne vous appelaient pas avant, qui vous appellent désormais, qui n'avaient pas d'addiction avant le confinement et qui en ont contracté pendant ?
Alors on a plusieurs personnes qui étaient dans la dépression, qui était dans la pression, dans la dépression, et ben pour entre parenthèses soulager leur dépression, ben ils se sont mis à consommer. Ils se sont mis à consommer, et que ça, nous on n'avait pas ça avant. Nous c'était soit des personnes addictes ou dépressifs, mais à ce niveau-là on n'avait pas. Ça fait quand même 17 ans que je fais ça, et j'ai découvert un nouveau métier, comment on va dire. Mais vraiment.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que du, on va dire entre parenthèses, parce que nous on n'est pas soignants, quoi, je veux dire. Mais le nouveau métier, c'est de, là on travaille vraiment à l'aveugle, quoi, je veux dire. Donc c'est vraiment détecter, il faut vraiment avoir de l'attention tout le temps, quoi. Parce que à plusieurs reprises, on s'est aperçu que il y a des gens qui vont. On a eu une personne, un exemple, on a eu une personne qu'on a téléphoné. Pourtant, on lui téléphone, c'est une personne qu'on téléphone deux fois par jour, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de deux fois par jour. Et comment cette personne-là nous dit à chaque fois qu'elle allait bien, et sauf que pendant deux jours, ben on n'a pas eu de ses nouvelles, on n'arrivait plus à le joindre, et il l'a retrouvé dans le coma qui était le lendemain matin. Et c'est des personnes que grâce au coup de téléphone qu'on s'est aperçu qu'il répondait plus, qu'on a pu avertir les parents, enfin la maman, quoi. Et la maman, elle a pu aller voir, et puis comment elle s'est aperçue que son garçon, quoi, qui était dans le coma, qui venait de faire une crise d'épilepsie, quoi.
Et aujourd'hui, ça va mieux ?
Bah, ça va mieux, ouais, ça va mieux entre parenthèses, puisque il a été, on va dire, 3 jours à l'hôpital. Ils l'ont renvoyé, et donc automatiquement on a repris nos appels constamment, et en faisant très 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 attention à ce qu'il disait, en l'écoutant, et mais là c'est vraiment l'écouter, mais on peut pas plus que ça, quoi, je veux dire. Et on s'est aperçu que ce monsieur-là, ben en fait il n'allait pas bien du tout, quoi. Et on a dû téléphoner à sa maman pour l'avertir qu'il n'allait pas bien, quoi. Et ils ont dû rappeler le médecin. Là maintenant il est en maison de convalescence Covid.
Et donc c'est quelque chose qui du coup va peut-être changer votre façon de faire pour l'avenir, peut-être plus appeler vous-même les personnes.
Ouais, voilà, nous on s'est aperçu que dans l'association, c'est en fait les gens qui nous appellent pour nous demander de l'aide, ou nous demander des conseils, ou nous demander du soutien. Et on s'est dit que, on va dire que sur 7 semaines de d'appels téléphoniques, tout ça, vers les gens, on s'est dit qu'on allait conserver ça. On va garder quand même ce truc-là dans l'association, pour prendre des nouvelles de temps en temps au niveau des personnes, tout ça, quoi. Ben, les personnes qu'on voit, nous, en réunion, on les voit physiquement, ça va, mais les personnes qui sont très isolées et que, justement, nous, on les voit pas, ces gens-là, et on se dit, si on n'a pas de nouvelles, c'est qu'ils vont bien. Et c'est quelque part, c'est là où on va changer notre façon de faire, quoi, en fait.
Et d'ailleurs, pour terminer, quels conseils vous auriez à donner aux personnes les plus vulnérables, et puis faire un petit rappel, quand est-ce qu'on est addict à quelque chose et à quel moment on doit vous contacter?
Alors, il faut savoir que on peut déjà nous contacter à n'importe quel moment, quoi. Je veux vraiment que ça soit clair, quoi. Il faut penser que on a nos numéros de téléphone 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Après une addiction, c'est très compliqué, puisque on s'aperçoit pas qu'on devient addict, mais déjà commencer à consommer un verre tous les jours et tout le temps au même rythme. Et se dire, admettons, voilà, un verre, c'est pas grave, mais quand on est dans l'ennui, quand on est seul, et c'est là où on se rend pas compte et qu'on devient addict. C'est ça qui est compliqué, parce qu'on s'en rend pas compte, quoi, en fait. La solitude, on va dire que je dis pas que c'est tout le temps, mais la solitude fait beaucoup, beaucoup. Nous, on s'est aperçu que dans le confinement, il y a beaucoup de personnes seules, quoi, je veux dire, et qui sont soit devenues addictes ou qu'ils étaient en train de le devenir, mais par rapport au téléphone, simplement au téléphone, en les contactant au matin ou dans l'après-midi et même quelques fois au soir, on s'est rendu compte que on a quand même arrivé à sauver une dizaine de personnes sur tous les appels.
Vous pouvez donc contacter l'association Second Départ si vous ou un de vos proches a besoin de soutien, d'écoute, d'information, d'aide au déplacement au 03 62 22 57 72 du lundi au samedi de 9h à 16h et 24h sur 24, 7 jours sur 7 au 06 07 72 52 33. Ces numéros sont valables tout le long de l'année et l'association devrait pouvoir vous accueillir à nouveau à Haïcourt et reprendre les visites à domicile à partir de début juin. Et vous aurez également plus d'informations sur leur page Facebook et leur site second-départ.fr. Cette interview téléphonique a été réalisée le 4 mai dernier par Mélissa Millet pour Banquise FM.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Ma station, ma région, ma passion.
Partout les chaises sont empilées, partout les rideaux sont tirés, les salles de classe ressemblent toutes à ce qu'elles seront au mois d'août. Les paquets de pâtes italiennes ont déserté tous les rayons, comme s'il fallait qu'on se souvienne que la peur réveille les couillons. Excepté la bêtise humaine, nous voilà tous en quarantaine, en quarantaine. Certains allument la chaîne IFI, savourent un album en entier. Certaines ressortent le manuscrit qu'elles n'ont jamais pu achever. Les confinés relisent Prévert, les confinés se serrent la main. On a toujours besoin d'une guerre pour démasquer les êtres humains. Comme le cargo du capitaine, nous voilà tous en quarantaine, en quarantaine, en quarantaine. Les impatients trinquent à distance, par vidéo interposée. Les solitaires matent à outrance n'importe quelle dope télévisée. S'il y a des concerts aux fenêtres et des coups de fil pour nos grands-mères, c'est qu'au bord du gouffre peuvent naître les plus beaux élans solidaires. Moi qui viens de passer la trentaine, je fais un saut en quarantaine. Les marches s'effondrent un peu plus et les costards retroussent les manches. Il fallait au moins ce virus pour qu'il se soucie des blouses blanches. Comme la bataille est immédiate et malgré le manque de moyens, c'est le stéthoscope en cravate que les docteurs sauvent nos anciens. Il serait temps qu'on s'en souvienne, quand prendra fin la quarantaine. La quarantaine. La quarantaine.
La quarantaine, c'était Gauvin Serre sur Radio Plus. Allez, tout de suite, on s'intéresse à la maison des associations de Roubaix, qui elle aussi a dû s'adapter au confinement. Un sujet de nos confrères de Pastel FM à Roubaix.
La Maison des associations de Roubaix réunit aujourd'hui plus de 170 associations adhérentes. Elle est un lieu incontournable d'information des habitants et de service aux associations impliquées à Roubaix et sur la métropole. J'ai interviewé ce vendredi 17 avril 2020 sa chargée de communication pour qu'elle nous parle de la Maison des associations et du contexte actuel avec le confinement.
Oui, je suis Valérie Georges, chargée de communication à la Maison des associations de Roubaix. La Maison des associations, pour ceux qui ne connaissent pas, elle se situe Place de la Liberté, là où il y a le cinéma de Roubaix. Et donc en fait, la Maison des associations, c'est une structure associative qui a vocation à aider elle-même les associations dans leur fonctionnement. Donc toutes sortes d'associations, les associations de solidarité, de loisirs, les associations sportives ou de citoyenneté. Enfin vraiment les petites, les grandes. Donc on développe beaucoup de services pour les accompagner dans leur fonctionnement. Et en parallèle, comme on a le privilège du coup de bien les connaître, on a aussi une mission d'information des habitants qui ont quelquefois des besoins et qui peuvent profiter des activités associatives. Activités de loisirs encore une fois, ou s'ils ont besoin d'être aidés eux-mêmes pour des questions administratives ou liées à des aides de solidarité. Voilà, on fait la promotion des associations auprès des habitants.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'actions que vous avez déjà menées ?
Oui, alors on a la chance d'avoir des locaux en plein centre-ville, et ce qui nous permet de faire de l'accueil. On a donc des salles de réunion et des salles d'activité qui nous permettent d'accueillir les activités des associations, les activités de yoga, les associations qui viennent faire leur assemblée générale ou des permanences pour écouter les habitants. Et on propose aussi donc des services de conseils et de formation pour aider les bénévoles, parce que c'est beaucoup de responsabilité de gérer une association, et c'est pas toujours simple, hein, il faut être multicasquette. Donc on développe un maximum de ressources pour pouvoir les aider. On organise aussi des événements, des temps de rencontre, parce que c'est vraiment important que les associations puissent se connaître entre elles. Ça développe parfois des synergies, il y a des projets qui se mettent en place. Et donc on a à cœur de créer des occasions de mise en réseau.
Et vous organisez aussi des formations?
Oui, donc c'est dans l'accompagnement, effectivement, ça peut prendre plusieurs formes. Les associations, donc les responsables associatifs nous appellent quelquefois, on les prend, on leur propose des temps de rendez-vous individuels. Mais il y a aussi effectivement ces formations qui sont proposées tout au long de l'année. Alors il y a 3 volets de formation. Il y a les formations d'initiation qui proposent de faire le tour des fondamentaux sur comment et constituer une association, et qu'est-ce qu'il faut savoir de base pour que ça fonctionne bien. Et puis ensuite, on propose des temps plus des focus sur des thématiques comme le mécénat, faire son plan de communication, utiliser les logiciels libres. Donc on fait le tour un peu de toutes les ressources qui peuvent être utiles. Et enfin, il y a un troisième volet qui est plutôt à destination des associations employeurs. C'est une fonction qui peut être lourde pour les bénévoles responsables. Donc certaines associations donc embauchent des salariés. Il faut bien connaître le cadre légal pour pas se retrouver en difficulté. Donc on propose des modules depuis l'année dernière. Donc c'est une action nouvelle dans nos services de formation des responsables employeurs. Et c'est des formations gratuites qui sont sur des petites modules d'une demi-journée, une journée. Comme ça permet aux gens de se libérer, pouvoir y assister.
Et vous accompagnez aussi les associations en grande difficulté.
Oui, parce que, comme je disais, c'est quand même beaucoup de responsabilités hein, entre la comptabilité, les ressources humaines, le juridique, ou même tout simplement des désaccords internes. On accompagne les associations vraiment pour les aider à clarifier, à poser les choses, et puis donc à prendre les bonnes décisions pour pouvoir être dans les règles et puis, les éclairer sur les solutions possibles par rapport à leur situation.
Vous organisez aussi, tous les ans, un temps de rencontre autour d'un forum.
Oui, le forum des associations, bon, il est sur un modèle très classique, hein, on le trouve dans beaucoup de films, mais c'est le grand temps de rassemblement et de mise en valeur des associations auprès des habitants. Pardon. On l'organise en partenariat avec la mairie de Roubaix. On a la chance de pouvoir utiliser le Vélodrome, qui est un lieu magnifique, et donc où à peu près 120-130 associations sont réunies pour rencontrer les habitants. Donc c'est un événement, on va dire, vraiment vitrine, un événement festif hein, qui permet aux associations de pouvoir bien mettre en valeur ce qu'elles font. Alors habituellement, ça se passe début septembre. Là, pour le coup, avec le confinement, on ne sait pas trop, là, il n'y a pas de décision prise pour savoir si on reste sur les créneaux habituels. Mais bon, on s'adapte et on verra au fil de la reprise.
Nous sommes toujours en compagnie de Madame Valérie Georges, chargée de communication de la Maison des associations de Roubaix.
Il y a une transition qui est toute faite. Vous parlez de confinement. Je voulais savoir quel impact a eu justement le confinement sur le fonctionnement de votre association.
Ben, la première décision qui a dû être prise, c'est de fermer les locaux. Donc là, forcément, ça a bouleversé toutes les habitudes des associations. Beaucoup d'associations ont dû cesser leur activité. L'équipe de la Maison des associations, elle reste active. On est tous en télétravail. Donc, si une association a besoin de conseils, on peut la renseigner avec des rendez-vous téléphoniques. Il y a une partie de l'équipe qui est sur la nécessité de relayer les décisions qui sont prises au niveau national, justement pour pouvoir aider les associations. Il y a pas mal de questions qui se posent sur comment est-ce qu'on va organiser notre assemblée générale, comment va se passer la clôture des comptes, comment est-ce qu'on va être subventionné, et tout ça on le sait un peu au fur et à mesure. Donc on est en relation avec nos réseaux nationaux, le réseau national des maisons des associations, le réseau des points d'information vie associative. Les collectivités aussi restent en contact avec nous. On a beaucoup de contacts avec la préfecture et donc on relaye beaucoup ces informations via nos réseaux sociaux. Donc la Maison des Assos a une page Facebook, il y a une newsletter auquel chacun peut s'inscrire. Il y a le site internet, etc. Enfin voilà tous les supports médias habituels. Et en parallèle, on soutient toutes les associations qui restent en activité. Donc beaucoup d'associations qui, bien sûr, sont sur des actions de solidarité. Et puis aussi, il y a des associations qui essayent de maintenir un lien avec leur public en proposant des activités de loisirs en ligne, de proposer des activités pour les enfants, enfin voilà. Et donc on relaye tout ça via notre newsletter et tous les supports que j'évoquais précédemment pour maintenir cette dynamique et puis et le lien entre chacun, ce qui est vraiment très important pour tenir pendant cette période qui est quand même assez longue et difficile pour certains. Dans cette période de confinement, on s'appuie beaucoup sur nos réseaux. La Maison des Associations travaille en réseau avec des maisons des associations, avec les collectivités, avec des structures au niveau national. Et donc très vite, on a travaillé ensemble pour évaluer quel est l'impact du confinement sur les associations. Donc il y a une enquête auquel on a contribué dans sa forme et puis dans sa diffusion. Cette enquête nous permet déjà de voir que, par exemple, 70% des associations ont totalement arrêté leur activité et qu'il y en a 10% seulement qui sont sur une activité à temps plein, qui ont pu maintenir leur mission.
Si on a besoin d'informations sur la Maison des Associations.
Alors, si on a besoin d'informations, il faut nous contacter par mail. Bien sûr, les lignes téléphoniques ne fonctionnent pas, donc c'est contact@mdaroubaix.org, donc mdaroubaix sans point, sans tiret, donc contact@mdaroubaix.org. Et le site internet de la Maison des Associations, mdaroubaix.org, où on va retrouver aussi toutes les informations. On partage au maximum. Il y a un Google Drive aussi qui s'est mis en place parce que je voulais rajouter que donc on fait cette veille au quotidien. On contacte beaucoup d'associations pour savoir si elles ont repris toute partie de leurs activités, enfin si elles poursuivent toute ou partie de leurs activités. Et donc le résultat de ces démarches est en ligne sur un Google Drive. Après, l'annuaire des associations sur le site reste aussi accessible à tous. Et donc, on est en activité et il y aura un retour, il y aura des réponses. Chacun peut nous contacter et on vous répond dans la journée pour que ce soit des questions liées à ce que font les associations ou des questions liées à des problématiques de fonctionnement d'associations.
Nous étions ce vendredi 17 avril 2020, en compagnie de Madame Valérie Georges, chargée de communication de la Maison des Associations de Roubaix. Sujet réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Rejoignez Radio Plus sur Facebook. www.facebook.com/radioplus62. Radio Plus, Radio Plus, la fréquence de l'Artois.
Que la vie part en toi et tu pardonne-moi.
Téléphone Instant sur Radio Plus avec New York avec toi. Tout de suite, on passe à l'actualité associative. Et on commence avec un décès, la disparition d'Edith Arnout-Brill, membre du Haut Conseil de la vie associative à l'âge de 71 ans. Tout au long de sa carrière, elle aura défendu la vie associative et la jeunesse. Tour à tour chercheuse en pédagogie appliquée au sein de l'Académie d'Amiens, présidente du FONJEP, vice-présidente et plus tard présidente du Conseil national de la vie associative, mais aussi secrétaire générale de la Fédération unie des auberges de jeunesse, ou encore membre du Conseil économique, social et environnemental. C'était une des figures les plus importantes du mouvement associatif en France, au service de l'éducation populaire. Une question que certaines associations qui organisent de gros événements peuvent se poser. Peuvent-elles invoquer le cas de force majeure pour annuler un événement ? Pour répondre à cette question, qui dépend du contexte et des engagements signés, le site internet Association Mode d'Emploi propose le mardi 12 mai prochain à 10h un webinaire. L'inscription est gratuite et ce webinaire sera animé par Yannick Dubois, consultant chez Cogito Association, ainsi que Grégory Autier, directeur de l'association S3A. Et puis Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance auprès du ministre des Solidarités, de la Santé et de la Caisse nationale d'allocation familiale, a annoncé un plan d'action pour aider les parents pendant la période de confinement. Parmi les dispositifs annoncés figure la création d'un fonds de soutien aux associations doté d'une enveloppe de 500 000 euros pour soutenir les projets associatifs et initiatives d'envergure nationale à destination des parents, ce afin de pallier à la fermeture des structures de soutien à la parentalité et à la diminution de l'accompagnement en présentiel des parents. Voilà, c'est la fin de Fréquence Association. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Microscope sur Radio Plus. Très bonne matinée à l'écoute des programmes de Radio Plus. Yes, that's all right.